Louis Pergaud, le roman de Miro, chien de chasse, première partie, chapitre 8. Lisée, qui s'était levée avant le jour, fut près de très bonne heure le lendemain matin. Miro, debout en même temps que le maître, l'avait accompagnée partout, à l'écurie, à la grange, chez Philomène, avec un vif intérêt. Il avait parfaitement deviné que le patron allait en voyage, et il espérait bien, lui aussi, être de la partie. Aussi, sa surprise fut-elle grande lorsqu'il s'aperçut, enfermé comme par inadvertance, dans la chambre du poêle, avec Mitis et Mout, que Lisée attelait et partait sans lui. Il aboya, croyant à un oubli. Mais le roulement de la voiture, démarrant au trot robuste de Caddy, empêcha d'entendre ses appels. Du moins, il put le croire. Cependant, ce n'était point par inattention que Lisée avait enfermé Miro dans la chambre avec les chats. Il est toujours imprudent, quand on est en voiture, d'emmener avec soi de jeunes chiens de chasse. « Surtout maintenant, répétait-il. » Avec toutes les bicyclettes, motocyclettes, automobiles et autres saloperies qui infestent les routes, vous tombent dessus sans crier gare, écrabouillent vos bêtes et ensuite se donnent du vent que c'est bernique pour les reconnaître et revoir jamais les salauds qui ont fait le coup. Lui, Lisée, qui était pourtant assez prudent, avait eu un jour un chien, lequel, en voulant se garer d'une calèche arrivant par derrière, s'était fait écraser la patte par sa propre roue de voiture, et on ne parlait pas d'auto dans ce temps-là. D'autre part, un jeune chien curieux, flaireur, facilement distrait, jovialement confiant, est trop facile à perdre, surtout quand il est beau, car il se trouve toujours des amateurs, plutôt sans gêne ni scrupules, qui savent habilement profiter d'un instant d'inattention pour attirer la bête à l'écart, lui passer une laisse au cou et, ni vu ni connu, vous l'emmener bel et bien, on ne sait jamais où. Ces observations et ces réflexions que Lisée avait formulées chez lui maintes fois n'étaient point sorties tout à fait de l'esprit de la guélotte. C'est pourquoi, flattée d'un vague espoir, dès qu'elle jugea que Lisée pouvait être à un bon kilomètre du village, elle ouvrit au chien qui la demandait instamment la porte de la rue et le lança dehors avec un coup de savate en disant « Va-t'en le retrouver tant que tu voudras et reste en route si tu peux. » Miro ne perdit pas une minute. Il flaira par toute la cour, puis, sans hésiter, prit le vent et fila comme une flèche. Et, 10 minutes plus tard, comme Lisée, marchant à côté de la voiture, atteignait les quelques maisons du moulin de Velleran, rêvassant vaguement au tintinabulement des grelots de Caddy, qui secouait la tête avec fierté, il sentit tout à coup deux pattes s'appuyer sur ses jarrets. Violemment surpris, il se retourna, plus prompt que l'éclair, et reconnut son Miro qui lui faisait fête, causant en son langage, jappant à mi-voix, la gorge pleine d'inflexions tendres, frétillant de la queue, s'écrasant, l'œil plein de joie de l'avoir si vite retrouvé. « Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu !» jura Lisée en se grattant la tête. « Sacré petit salaud ! Qu'est-ce que je vais faire de toi ? C'est au moins ma rosse de femme qui t'a lâché trop tôt. Elle l'aura fait exprès, pour sûr. Elle savait bien que tu viendrais. Ah, la chameau ! C'était pour se débarrasser, et elle ne serait pas fâchée qu'il t'arrive malheur. » Et, un peu ennuyé et caressant son chien, tout content au fond de cet attachement et de cette fidélité, le chasseur se demandait s'il ne conduirait pas Miro jusqu'à Velleran qui était sur sa route. En donnant le bonjour à son ami Pépé, il lui confierait pour la journée son petit chien, et il n'aurait qu'à le reprendre au retour. Pourtant, ayant réfléchi que Pépé pouvait être absent, ou que le chien, se trouvant en milieu inconnu, chercherait sans doute à s'échapper encore, il ne s'arrêta point à cette solution. « C'est bien embêtant, » s'aronchonna-t-il. « Je peux pourtant pas retourner à Longeverne pour te ramener et laisser en panne ici, au milieu, la voiture et le calando. Si je rencontrais au moins quelqu'un qui aille au pays. » Ainsi réfléchissant, Lisée avançait toujours dans la direction du moulin de Velleran. « Ah ! » s'exclama-t-il au bout d'un instant. « J'ai trouvé ! Je ne pensais pas que c'est aujourd'hui jeudi. Je donnerai 2 sous aux gosses du meunier qui ne vont pas en classe et qui seront tout contents de ramener Miro chez nous. » Bientôt, on arriva devant la maison du moulin, à mi-chemin entre Longeverne et Velleran. Lisée arrêta son cheval, ouvrit la porte sans frapper, salua la compagnie et, pendant qu'on lui apportait un verre pour trinquer, exposa le cas et conclut l'affaire d'emblée. Miro, solidement attaché, resta là, tandis que son maître s'éloignait. Il eut beau japper et pleurer et tirer sur la corde. Ce ne fut qu'au bout d'une bonne heure que les gosses, leurs poches lestées de provisions, le reconduisirent à son logis. De fait, comme elle partageait en pâtons pour la mettre en vanette la pâte emplissant sa mets, la guélotte, qui, très affairée, faisait au four ce matin-là, vit la porte s'ouvrir et 2 gamins entraient précipitamment, entraînés par l'élan du jeune chien qu'ils tenaient en laisse. « Nous ramenons le toutou, » expliquèrent-ils. « C'est Lisée qui a passé au moulin et qui nous a dit de vous le reconduire. »« Fermez donc la porte, » cria la guélotte. « Ma pâte va avoir froid et mon pain ne lèvera pas. Encore sa sale charogne qui en sera cause. Ah, s'il avait au moins pu le suivre et qu'un brave imbécile de voleur l'ait ramassé. » Cependant, les 2 enfants qui s'attendaient à une autre réception et pensaient que la patronne leur offrirait au moins un pain d'épices ou une pomme, dénouaient avec soin leurs ficelles et après avoir caressé le chien, repartaient sans dire au revoir à une femelle aussi rapiate, en faisant claquer la porte. Miro, que l'air vif et la course matinale avaient mis en appétit, après s'être assuré que sa gamelle à soupe était bien vide et léchée et reléchée, s'en vint rôder autour des vanettes pleines et tâcher d'insinuer son nez entre l'osier et le grand linceux qui recouvrait la pâte. « Veux-tu bien fiche ton camp, sale voleur ?» s'écria la guélotte. Et, saisissant un rème de coudre, elle en cingla le chien, qui poussa un cri aigu et s'en vint gratter à la porte. La femme, aussitôt, vint la lui ouvrir, tandis que, garé de côté, les jarrets courbés, il ramassait les fesses, dans l'espoir d'amortir le coup de pied réglementaire, droit de péage, qu'il payait invariablement, chaque fois que la patronne était mise dans l'obligation de se déranger pour son service. Esselé, il erra autour de la maison. Il visita le jardin avec soin, chercha le long du mur où il découvrit quelques vieux os que, faute de mieux, il rongea consciencieusement. Il fut tiré de son occupation par le retour du Mick, qui rentrait, fier, dans ses foyers. Une souris en travers de la gueule. Il voulut lui prendre son gibier, mais ce n'était pas pour la chatte l'heure de plaisanter, et elle le lui fit bien voir en le giflant d'un coup de griffe sec et qui n'admettait ni discussion ni réplique. La chasse, c'est la chasse. Il n'y a plus, quand une proie conquise est en jeu, ni race ni amitié qui tiennent. Miro le saurait peut-être plus tard. Pour l'heure, désappointé, il s'assit sur son derrière et regarda la rue. Par peur, par désœuvrement, par besoin de crier, par rancune aussi peut-être d'avoir été séparé de son maître, rancune qui s'étendait à tous et à toutes, il se mit à aboyer ce qui passait, hommes, femmes et même les enfants. Les premiers n'y prenaient point garde, mais les bambins, pas très rassurés, se sauvaient en se retournant pour bien voir qu'ils n'étaient pas suivis. La patronne, s'étant aperçue de ce jeu, sortit en l'invectivant, le fouet à la main, lui jurant qu'elle le rehausserait s'il osait s'aviser encore de japper aux trousses des voisins et de faire peur aux gosses. Il s'éloigna un peu et fit le tour du fumier, où il ne trouva rien. Il continua et passa devant la porte de la fémie, qui brandit son balai en s'élançant de son côté. Ensuite de quoi, comme la patronne n'avait pas l'air de se soucier beaucoup de son estomac, il résolut de chercher sa subsistance de côté et d'autre et de faire d'abord, par le village, une petite tournée alimentaire. Mais c'était pour lui jour de déveine. Beaucoup de portes étaient fermées. Les gamins, dont les poches étaient bourrées de gros chanteaux de pain, dont ils arrachaient de temps à autre une bouchée, se refusèrent, malgré ses caresses et ses amabilités, à lui donner sa petite part, lorsque les deux Brenots eurent compté qu'il leur avait jappé aux chausses, l'heure d'avant. Il fit néanmoins deux ou trois cuisines, lapa quelques gouttes de lait dans les assiettes des chats, but un peu d'eau de son, se fit violemment expulser d'une écurie où il quêtait un peu trop près du nid des poules. Puis, fatigué de sa tournée infructueuse, revint au logis dans le vague espoir que la femme du braconnier lui aurait peut-être trempé sa soupe. Las, il était bien question de pâter à cette heure. Toutes portes ouvertes, rouge telle une écrevisse cuite, ses cheveux filasses hérissés sur le front. La guélotte, une pelle ronde, à très longs manches aux deux mains, retirait successivement de l'ouverture béante du four les grosses miches de pain qu'elle déposait précautionneusement dans le pétrin vidé, soigneusement raclé et nettoyé pour cet usage. Une bonne odeur de pain chaud emplissait la pièce, excitant plus fortement encore l'appétit du toutou. Mais la grande queue de la pelle, bâton fantastique et rude, en imposait à Miro, qui, pour des raisons bien connues, évoluait à assez longue distance de sa maîtresse. Pourtant, quand elle eut achevé sa besogne, remis la perche en place, brossé les miches, et emplit le four d'une grosse brassée d'échine à faire sécher pour la fournée prochaine, n'y tenant plus, il s'en vint devant sa gamelle et regarda la femme en pleurant, c'est-à-dire en modulant de petites plaintes assez brèves et répétées. « Ah, tu as faim, charogne! C'est bien fait, crève si tu veux. Va demander à ton maître qu'il te donne, fallait aller avec lui. » Comme Miro ne comprenait que fort imparfaitement ce langage et qu'il continuait dolamment à réclamer, elle se fâcha et le réexpulsa violemment de la pièce et de la maison. « Allez, du vent et vivement. Nourris-toi toi-même puisque tu es si intelligent et si malin. Va chasser puisque tu es fait pour ça. » De tout ce discours, Miro ne saisit sans doute que l'invitation à quitter sans délai la cuisine. Mais il la saisit parfaitement. Et comme l'autre illustrait son langage en empoignant le balai, il n'attendit point que le manche de celui-ci prît contact avec ses reins ou son cul pour obtempérer rapidement. Fatigué et mourant de faim, il essaya de dormir. Tout de suite, il se mit en quête d'un coin abrité. Monta au haut de la levée de grange que chauffait le soleil. Et, sur quelques brins de paille et de foin, échappé à la bottelée de Lisée, se coucha en rond, le museau sur les pattes de derrière. Il ne s'émut pas le moins du monde des roulements de voitures, des meuglements de vaches rentrant du pâturage, ni de bien d'autres bruits encore qui n'intéressaient point ses besoins immédiats. Mais le reniflement de Bélone, au bas de la levée de grange, si léger qu'il fût, le tira de son sommeil et lui fit lever le nez. La Bélone était une amie et une puissance. Elle pourrait sans doute lui être utile. Ne l'avait-elle déjà point défendue contre ce méchant roquet de souris lors de sa première sortie. Il se précipita à sa rencontre en lui faisant des courbettes et se mit sans façon à lui mordiller les pattes et le cou. Puis, comme il avait faim, il lui flaira le nez. L'autre, qui avait sans doute découvert quelque part une vieille ventraille de lapin ou quelque autre charogne plus ou moins avancée et forte en odeur, émettait des émanations qui chatouillaient fort agréablement ses narines. Aussi lui lécha-t-il la gueule avec envie. Mais la chienne n'était pas d'humeur à prolonger des jeux qu'elle jugeait inutiles. Et comme Miro n'avait pas encore l'idée de la suivre en forêt, il ne put que la regarder franchir la haie du grand enclos et filer vers la corne du bois, où elle allait lancer un lièvre dont elle connaissait à 10 sauts près la rentrée habituelle et les buissons familiers. Les heures se traînèrent longuement. L'estomac du chien hurlait famine. Il se promenait, puis s'asseyait sur son derrière, puis cherchait de nouveau. Enfin, il repartit encore une fois. Cependant, il se faisait tard. Lisée, après avoir vaqué à ses affaires et déjeuné frugalement à l'auberge, revenait maintenant vers le pays. Cette fois, il ramenait un petit cochon. Caddy, déchargé, sentant l'écurie, marchait d'un bon pas. Ainsi qu'il l'avait promis à Pépé, qu'il avait rencontré en allant, il s'arrêta une minute pour lui donner le bonjour en repassant par Velleran. « Tu ne vas pas partir sans trinquer, » affirma le chasseur. « Ce serait me faire affront. » On attacha un instant Caddy à un anneau scellé dans une pierre de taille de la porte, tandis que Lisée, d'avance, s'excusait de la brièveté de sa visite. « Tu sais, faut pas que je m'attarde. C'est le cheval de Philomène et puis je ramène un cochon. En cette saison, comme il ne fait pas trop chaud le soir, il ne faut pas se mettre à la nuit et laisser les bêtes prendre froid. » À la nouvelle que Lisée ramenait un goret, Pépé, comme tous les cultivateurs l'eussent fait, manifesta le désir de le voir. Il était lié dans un sac et de temps à autre témoignait, en poussant un grognement, de l'ennui de n'être pas libre. On délia la ficelle et il mit sa tête au trou. « C'est un verra, » prévint Lisée. « Te l'a-t-on garanti comme étant bien châtré ?» s'inquiéta son ami. « Tu sais que, quand ils sont mal affûtés, la viande n'est pas bonne et empoisonne le pissa. »« La Fanny me l'a vendu de confiance, » affirma Lisée. Pépé, cependant, l'examinait en connaisseur, le tâtant, lui ouvrant la gueule. C'était une jolie petite bête, toute grassouillette, qui avait un museau rose et le poil blond et soyeux. « Il n'a pas l'air mauvais, » conclut-il. « Il a une bonne bille. » Mais tant qu'on les a pas vus bouffer, on ne peut pas s'y fier. Oui, confirma Lisée, sa gueule me revenait et je l'ai pris sans trop marchander. Ça fait une bête de plus. Avec mon chien, ma femme, nos 3 chats, comptons voir. Voyons. Miro, 1. Ma femme, 2. La Mic, 3. Les 2 petits, Mitis et Mout, 5. Et celui-ci, comment que je vais l'appeler? Puisqu'il a une si bonne cafetière, appelle-le Cafot, conseilla Pépé. C'est le nom qu'on donnait jadis aux lépreux. Mais faut pas être trop difficile et c'est assez bon pour un cochon. Ça fait donc 6 bêtes dans la boîte, sans compter les poules. Mais Miro se charge de les éclaircir. Là-dessus, les 2 camarades entrèrent dans la cuisine pour parler chien, chasse, lièvre, renard, et vider une bouteille de derrière les fagots. Pépé en était à son 20e capucin. Il annonça la chose, non sans une petite pointe d'orgueil, à son confrère en Saint-Hubert. Puis il s'enquit de Miro. Lisée en était satisfait, très satisfait. Il narra même avec complaisance ses dernières aventures. En déduisit qu'il serait bon chien de chasse, et termina en regrettant que sa rosse de femme ne professait point à son objet les mêmes sentiments que lui, leur rendant à tous deux, au chien comme au maître, la vie aussi dure que possible. « Ah, renchérit Pépé, elles sont toutes les mêmes et ne voient que les sous. On serait trop heureux si on pouvait se passer d'elle. Encore ne se plaignit-il pas trop de la sienne, absente pour l'instant, qui ne devenait vraiment insupportable que les années où la chasse allait mal et durant lesquelles il ne tuait pas de gibier pour doubler au moins le prix du permis. Lisez, que le bon vin rendait optimiste, affirma d'ailleurs que cette mauvaise humeur de la guélotte, provoquée peut-être par son absence prolongée le jour de la foire, passerait certainement, et qu'au demeurant, il était assez grand pour y mettre bon ordre si ça devenait nécessaire. Ils se quittèrent après s'être souhaité le bonsoir. Élisée revint à Longeverne au trot soutenu de Caddy. Sitôt qu'il fut arrivé, il commença par remiser chez Philomène la voiture et le cheval. Puis, comme il est coutume de le faire quand on vous a rendu gratuitement un tel service, il invita son ami à manger la soupe avec lui et pria sa femme, lorsqu'elle aurait terminé son ouvrage, de venir, elle aussi, chercher son mari et prendre le café par la même occasion. Là-dessus, Cafo dans le sac sur son épaule et grognant à plein groin, il se dirigea vers la maison. « Qu'est-ce que cette grande bringue peut bien foutre chez moi ?» ronchonna-t-il en apercevant par la fenêtre de la cuisine la Fémie qui disputaillait avec sa femme. « Je gagerais bien qu'il y a encore du miro là-dessous. » De fait, le cochon n'était pas encore à terre et il n'avait pas même eu le temps de placer un mot que l'autre, lui brandissant sous le nez une volaille à demi déplumée, dont une cuisse était paraît-il rongée, lui beuglait au visage. « Paye-moi ma poule, une bonne poule que ta sale mûrie de vios m'a tuée. Et il m'a effarianté toutes les autres. Il m'en manque encore deux ou trois à l'heure actuelle. Et tu me les paieras aussi. Ah, tu veux des chiens? Tu en veux? Eh bien, paye !» Minute, calma Lisée. Tu es bien sûr que c'est mon chien qui a tué celle-ci?
Si je suis sûre, tu en as du toupet. Mais il y a la femme du maire qui a vu quand il leur courait après. Il y a la servante du curé et les filles de chez Tintin qui l'avaient la buée. Et c'est les petits du Ronfond qui lui ont repris à la gueule. Il avait filé dans un buisson. Il l'avait déjà à moitié déplumée. Et il était en train de la manger. La preuve, c'est qu'ils ont eu assez de mal de lui faire lâcher. Tiens, regarde la marque de ses dents. Tu diras peut-être encore que ce n'est pas vrai et que je suis une menteuse et que tous ces gens ont eu la berlue. Combien vaut-elle ta poule?
C'était ma meilleure ouveuse. Elle faisait un œuf tous les jours. Je ne te demande pas un libérame ni un de profondis. Je te demande combien tu veux de ta poule. Et maintenant qu'ils valent 20 sous la douzaine, naturellement, je vais te payer tous les œufs qu'elle t'aurait fait jusqu'à sa mort, et les nidées de petits poussins qu'elle aurait pu couver, et les enfants de ceux-là jusqu'à la 12e génération. Une poule, nom de Dieu, c'est une poule. Combien vaut-elle?
4 francs, rugit la vieille fille.
Une crevure comme ça? Qui ne pèse pas 2 livres ripostalisées?
Non mais, est-ce que tu te foutrais de moi par hasard?
Elle vaut 35 sous à peine.
Je t'en donne 3 francs ou rien.
C'est malheureux, larmoya la Fémie en empochant les 3 pièces. Dire qu'une charogne de chien, mais
s'il revient, je lui casserai les reins.
Avise-t'en, conseilla Lisée, et tu verras s'il se trouve à Roquefontaine un juge de paix pour des queues de prune.
Dis donc, rappela-t-il à la vieille fille qui s'en allait en portant sa volaille.
Mais je l'ai payée, ta poule, et assez cher, je crois. J'ai bien le droit de la garder, il me semble.
Fais-moi le plaisir de la laisser ici, hein?
Oh, comme tu voudras, je voulais l'encrotter.
Je m'en charge, répliqua le chasseur, qui, aussitôt, commanda à sa femme de la plumer sans délai et de la mettre à la casserole. Ça fera un plat de plus et Philomène en profitera, ajouta-t-il. La guélotte, faute de pouvoir se dégonfler, écumait de rage en oubliant le cochon qui grognait toujours dans son sac. Sans prendre garde à elle, Lisée le reprit sous son bras pour le porter à sa hutte. Il lui versa immédiatement dans l'auge son manger. Et, après s'être assuré qu'il avait une litière abondante, il revint à la cuisine. Philomène entrait justement. « Je pense bien, » affirma la Guélotte d'un ton autoritaire et s'adressant à son mari, « que tu ne vas pas garder plus longtemps un vorace comme celui-là qui se met aux poules. Nous n'en avons pas les moyens. »«
Il faut voir, » intermoya Lisée. « Je vais d'abord le corriger. »
Et, suivi de Philomène, mis au courant de la situation, ils pénétrèrent dans la remise où était attaché le chien. Le pauvre animal, qui avait été fabuleusement rossé, n'osa même point se lever à l'approche des deux hommes. Craintif, le poil tout hérissé, il battait lentement son fouet, la tête aplatie sur la paille, les regardant d'un œil rouge et chargé d'angoisse. Philomène, qui l'examinait attentivement, coupa la parole à Lisée qui allait gronder et tempêter.
« Mais il est vite comme un sifflet, ce chien » constata-t-il.
« Il n'a sûrement pas bouffé depuis hier au soir. »«
Crénant de Dieu, c'est pourtant vrai, » jura Lisée à son tour.
« Ah, la sacrée vache! Laisser une bête avoir faim! Ce n'est pas étonnant qu'il court les poules s'il n'a rien dans le cornet depuis 24 heures.
Et voilà, c'est la faute du chien. Attends un peu. »
Ils rentrèrent à la cuisine. Me dirais-tu bien quelle espèce de soupe le chien a mangé aujourd'hui?
De la soupe, bien sûr que j'y en ai fait.
Et avec quoi, s'il te plaît?
« Je te demande avec quoi, sacré garce ?»«
Ah, et puis, est-ce que j'ai eu le temps, moi ?»«
J'ai fait au four. J'ai préparé la hutte du cochon, arrangé le ménage, fait le souper. »«
Ça va bien. Donne-moi le pain. C'est moi qui vais lui faire à manger. Mais si tu prononces un mot au sujet de la poule, c'est à celui-ci que tu auras affaire. »
Et Lisée désignait du doigt le bout carré de son solide brodequin ferré.
Si le chien avait eu l'estomac plein, il n'aurait pas eu l'idée de boulotter une poule. Et je veux t'apprendre, moi, à laisser les bêtes crever de faim.